Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'est donc un fait étrange qui a eu lieu un vendredi 12 juillet 1518 et qui continue encore à nous fasciner. Selon la presse de l'époque, d'il y a 500 ans donc, une drôle du pays de Mimi s'est abattue sur Strasbourg, déjà touchée par la famine, la canicule en été, les grands froids en hiver, la misère toute l'année. Cet été-là donc, des gens désespérés se mettent subitement à danser sans s'arrêter, sans pouvoir s'arrêter, comme s'ils étaient possédés, en sueur, en transe. Ils dansent jusqu'à la chute, ils dansent parfois jusqu'à la mort. Jean Tellet revient sur cette histoire d'une façon très documentée et complètement romanesque, comme il sait le faire. Et c'est le roman de Jean Tellet que vous adaptez en bande dessinée, Richard Guérineau. Bonjour.
Bonjour.
Alors d'ailleurs, c'est pas la première fois que vous adaptez un roman de Jean Tellet en bande dessinée, mais dans celui-ci, toute la dramaturgie de cette histoire incroyable réside dans ces corps en transe, cette danse macabre, pour reprendre l'appellation de l'époque, des corps en transe, une rave de misère. C'est-à-dire que tout est dans le mouvement. Est-ce que ça vous a posé un problème d'imaginer comment représenter des corps en mouvement, en dessin? Justement, le dessin, ce n'est pas fait pour ça.
Alors justement, c'était bien tout l'intérêt de ce projet-là, c'était de comment arriver à retranscrire le mouvement en image fixe, puisqu'on est dans la bande dessinée. Et alors c'est quand même une grande tradition du dessin que d'essayer d'exprimer le plus de dynamisme possible en 2D. Mais là, c'était un des points forts de ce récit. C'était j'allais montrer non seulement des gens qui bougent, mais une foule en mouvement. Et ça, c'est encore plus difficile. Mais c'était le challenge de cet ouvrage-là et c'est ce qui m'a plu dans ce récit.
Et on va voir comment vous allez utiliser aussi la couleur pour bien montrer cette transe. Mais est-ce que ça a été d'abord beaucoup de travail de préparation, Richard Guérineau, d'essai, de tentative de représenter des corps en mouvement, des masses en mouvement d'ailleurs, c'est bien de l'avoir précisé.
En fait, je me lance un peu sans filet sur ce genre de projet, c'est-à-dire que je fais assez peu de croquis préparatoires, j'en fais quelques-uns quand même, hein, soyons honnêtes, mais c'est vraiment au fil du récit que j'essaye de me laisser emporter par le rythme du récit lui-même, et c'est ce rythme-là qui va donner le tempo pour la représentation graphique des foules en mouvement, justement. Donc j'ai fait assez peu de recherches. En revanche, graphique, j'entends, mais en revanche, j'ai regardé énormément d'extraits, de vidéos, de spectacles, de danse contemporaine notamment. J'avais envie de créer de l'anachronisme dans ce récit-là, de représenter des mouvements de danse qui n'existaient évidemment pas à l'époque.
Oui, parce que ça renvoie à des raves, hein. Vous utilisez même toutes les couleurs de la techno, des technivals.
Il y a effectivement cette fameuse scène dans la cathédrale qui se transforme en rave party où effectivement là j'ai joué sur la couleur, les couleurs criardes et éblouissantes. Il y a aussi une scène où je me suis inspiré toute une scène d'un des personnages principaux qui rentre en transe, et dans sa transe elle a une espèce de délire hallucinatoire, et j'ai représenté dans son délire elle voit une danse buto, donc le buto, une danse japonaise donc qui date d'après la guerre, hein, d'après Hiroshima, et qui est littéralement la danse des ténèbres. La signification de buto signifie danse des ténèbres. Et du coup, ce genre d'anachronisme, j'ai essayé de les intégrer dans ce récit qui se passe à la Renaissance. Et mes sources d'inspiration, ça a été ça. Je suis allé regarder des spectacles de Pina Bausch, enfin voilà, des grands chorégraphes comme ça, pour me nourrir d'un mouvement qui soit pas un mouvement de danse classique, en fait.
Et vous étiez au courant de cette histoire, de ce drôle de fait divers, où vous avez découvert comme moi en lisant le livre de Jean Tellet?
En fait, alors je l'ai découvert encore d'une autre manière, puisque c'est Jean Tellet lui-même qui, au moment où il était en train d'écrire le roman, on s'est vu, on a déjeuné ensemble, et puis un moment, il me dit « Je suis en train d'écrire un roman, oh, je te verrais bien l'adapter », puisqu'on avait déjà collaboré sur Charlie IX. Hein. Et là, c'est lui qui m'a proposé de l'adapter. Alors, je lui ai dit « Oui, mais de quoi ça parle ?» Et comme je savais qu'il était très superstitieux, il aime pas trop dévoilé le sujet de ses romans avant qu'ils soient sortis. Il m'a juste dit, ah, je peux pas trop dire, mais ça se passe en 1518. Je me suis dit, 1518, c'est très précis quand même. Donc je suis allé faire quelques recherches, qu'est-ce qu'il a pu se passer. Et à un moment, je suis tombé sur cette histoire-là à Strasbourg, et je me suis dit, ah, je suis sûr que c'est ça, le connaissant.
Alors comment vous avez réagi, Richard Guérino, quand
j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial.
Vous n'êtes pas posé la question réelle ou une légende ou une hallucination collective?
Mais dans un deuxième temps, je me suis posé cette question, mais ma première réaction a été de me dire oh, histoire extraordinaire, effectivement, oui, ça vaut le coup. Après, quand on se penche plus précisément sur le récit, là, oui, j'ai commencé à me poser des questions, à essayer de chercher un peu, de voir ce qui était de l'ordre de la vérité historique et de l'ordre de l'invention romanesque, d'autant que Jean Tellet sait très bien mêler le vrai et le faux sans qu'on sache à la fin ce qui s'est réellement passé. Et du coup, cette épidémie a vraiment eu lieu, hein, c'est un fait avéré. Et il se trouve qu'il y a eu, à l'époque, on va dire au tournant du XVIe siècle, il y a eu en Europe du Nord notamment beaucoup d'épidémies de cet ordre-là, des épidémies de danse. On ne sait pas pourquoi les gens péter un câble et se lancer dans des danses endiablées.
Des danses macabres, pour reprendre l'expression de Shakespeare. C'est William Shakespeare qui disait ça.
Absolument. Et alors, qui finissent en danse macabre, pour le coup, ouais. Mais parce que, à l'origine, au Moyen-Âge, la danse macabre, c'était les vanités de la Renaissance, les danses macabres, tout ça, c'était des pratiques picturales ou de dessin qui étaient censées dire aux gens, mais voilà, la vie n'est que passagère. Riche, pauvre, tout le monde se finira de la même manière, de toute façon. Enfin bon, c'était quand même quelque chose qui venait de l'Église aussi, hein, qui était destiné à endormir un peu les pauvres, dirons-nous.
Ouais.
Et ces épidémies de danse qu'il y a pu avoir à l'époque sont assez fascinantes dans le sens où c'est vraiment on a le sentiment que c'est un mouvement de révolte, en fait, qui s'exprime à travers.
Ah oui,
on n'en peut plus.
Mais aujourd'hui, on ne peut le lire que comme ça. C'est-à-dire,
absolument.
C'est un mouvement de révolte. C'est la rue qui s'exprime, au lieu d'avoir des slogans, et ben, ils ont cette danse.
Exactement. Comme ils n'ont plus de mots, c'est des gens pauvres qui crèvent de faim, qui sont dans des situations abominables. Ils n'ont plus de mots pour exprimer leur souffrance. Et donc, c'est le corps qui parle, en fait. Et le corps va partir dans une sarabande effrénée et jusqu'à un final qui dans le roman n'est pas très comment dire, c'est pas une happy end, on va dire, dans
non,
le roman
seulement qu'on puisse dire, hein.
Dans la réalité, en revanche, on ne sait pas ce qui s'est passé en réalité, comment tout ça a fini.
Entrer dans la danse, donc c'est votre adaptation, Richard Guérino, du roman de Jean Tellet, un roman très documenté, même s'il est romanesque. On connaît Jean Tellet. Il était mon invité en mars 2016 à l'occasion de la sortie justement d'Entrer dans la danse. Et il nous raconte dans cet extrait que je vous propose d'écouter, d'une part, comment il a été mis au courant de cette histoire, de ce fait divers. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé réellement?
J'ai appris cette histoire de façon très curieuse, me rappelle très bien, c'était en 2016, j'allais à la foire du livre de Brive en prenant ce fameux train que tous les écrivains appellent le train du cholestérol. C'est un train rempli d'écrivains, de journalistes littéraires. On arrive à 9h à la gare d'Austerlitz. À 9h30, on commence dans le train à nous servir des apéritifs à l'alcool de noix, de la Corrèze, machin. Après arrivent les foie gras, les confits, tout ça est arrosé de vin. À 11h30, déboule en digestif la vieille prune de Souillac. Tous les écrivains sont torchés. Et là, je vois un jeune type qui s'appelle Julien Bisson, qui était le rédacteur en chef du magazine Lire, qui arrive avec des yeux brillants et qui me dit « Jean, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'épidémie de danse à Strasbourg en 1518 ?» Je regarde ses yeux, je me dis « Donc c'est lui le mec le plus bourré du train. » Et bien il me dit « J'ai entendu deux, trois mots là-dessus sur une radio » et je me suis tout de suite dit « C'est un roman pour Jean. » Moi, je rigole, et puis dans la journée, je fais mes machins, puis le soir, je repense à ce que j'avais pu faire dans la journée, puis je repense à, notamment aux phrases que m'avait dit Julien Bisson. Et je m'amuse à taper sur Internet Strasbourg, danse 1518, et là, je tombe sur une chronique alsacienne, directement sur une chronique alsacienne de l'époque, qui disait « Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement et s'est répandue dans Strasbourg, de telle sorte que dans leur folie, beaucoup se mirent à danser et ne cessèrent jour et nuit sans interruption pendant 2 mois, jusqu'à tomber inconscient, beaucoup sont morts. » Et là, je me dis, mais putain, c'est vrai, cette histoire.
Comment a commencé cette danse macabre? Comment a commencé cette manie dansante? Puisque très longtemps, on l'a appelée comme ça, une manie dansante.
Une femme dont on connaît le nom, Enline Trofea, le vendredi 12 juillet 1518, vers midi, sort de chez elle, rue du Jeu des Enfants. Quand même, quel nom de rue. Et une rue qui existe toujours. Avec son nourrisson dans les bras, elle va jusqu'au pont du Corbeau, et là, elle balance son môme à la rivière. Elle avait plus de lait, pouvait donc plus allaiter son môme, et elle, c'était impossible de le nourrir. Elle revient rue du Jeu des Enfants, et là, dans la rue, elle se met à danser. Et d'autres gens qui étaient dans des situations infernales comme elle, la voyant, se sont approchés d'elle et se sont mis à danser aussi. Et donc cette danse est devenue contagieuse et tout le monde est rentré dans le sillage d'Enline Trofea. Et le gros problème, c'est que les gens qui se mettaient à danser ne pouvaient plus s'arrêter. Ils dansaient nuit et jour pendant des semaines. Les médecins qui déboulaient se disaient « Mais comment c'est possible ? Même les plus chétifs n'arrêtent pas de danser. Les pieds en sang, cartilage apparent, et les gens mouraient d'épuisement, de crise cardiaque. À un moment, c'était 30 morts par jour, et le clergé et le maire essayaient d'arrêter ça aussi bien qu'ils pouvaient, et ils avaient beaucoup de mal.
Jean Tellet, dans le Réveil culturel en mars 2018, c'était à la sortie de son roman chez Julliard, adapté donc de ce fait divers, Entrée dans la danse. Et vous, Richard Guirino, vous venez de publier l'adaptation en bande dessinée chez Delcourt. Et ce qui vous intéresse, parce qu'on entend bien hein, dans les propos de Jean Tellet qu'il y avait un contexte social, et vous insistez, hein, c'est-à-dire plus que l'épidémie dansante désespérée qui a eu lieu à Strasbourg en 1518, vous racontez plutôt l'histoire d'une époque marquée par la dualité entre le clergé, le riche clergé, et le peuple. Totalement misérable à cette époque-là. Hein.
Ouais, absolument. Et d'autant qu'on est vraiment à cette période charnière au tout début du XVIe siècle où la religion catholique est très très puissante. Et le protestantisme commence juste à arriver. 1518, je crois que c'est l'année où les premières thèses de Luther arrivent depuis la Saxe et sont publiées à Strasbourg. Et donc, on est vraiment dans une période charnière où on change de monde, en fait. La religion est en train d'être ébranlée. Les politiques, donc le maire, l'Ammeister de Strasbourg, ne sait plus vers qui se tourner parce que la ville est exsangue. Famine, les récoltes ont été toutes détruites par des périodes de sécheresse et de grand froid. Enfin, la ville, c'est une catastrophe, la situation de la ville. Et donc, il y a cette lutte, effectivement, entre le clergé qui ne veut pas entendre parler de ces histoires de gueux et qui continue à nager dans l'argenterie. Et puis, le peuple qui lui crève de faim et donc, à travers cette épidémie, va exprimer son désarroi. Et sa colère. Et puis, au milieu, il y a le maire, donc, qui est le politique, qui essaye de gérer tant bien que mal, comme il le peut, cette situation catastrophique dans sa ville. Il va aller jusqu'à faire construire une estrade sur le parvis de la cathédrale pour aller parquer les danseurs, premier dance floor de l'histoire. Et puis, ils vont les nourrir, parce que les médecins ont dit qu'il fallait les faire danser pour évacuer les mauvaises humeurs. Enfin, il y avait toute une théorie des médecins. Donc fallait faire danser encore plus, donc on va les nourrir, voilà, et ça va finir dans une espèce de cacophonie et de gros bazar de brôle, comme disent les Belges. Enfin, ça va être une catastrophe, quoi. Donc on va laisser tomber la thérapie par la danse et on va les parquer chez eux, les enfermer chez eux après, sauf que l'épidémie va continuer quand même.
Voilà, elle continue cette épidémie, mais vous, ce qui vous intéresse, Richard Guirino, c'est effectivement la confrontation entre les riches et les pauvres, entre le clergé et ces pauvres danseurs.
C'est ça, oui, oui, absolument. Moi, ce qui m'intéressait, c'est donc ce mouvement de foule, donc qui va exprimer sa révolte. En face, la réaction d'un clergé qui est d'une arrogance finie. Et puis, au sein de cette foule de danseurs, il y a le couple, donc les deux protagonistes principaux, qui sont Enlin Trofea et Melchior Trofea. Enlin, qui est le patient zéro de l'épidémie, la première victime de l'épidémie. C'est par elle que tout démarre.
Ou celle qui déclenche la mobilisation.
Ou celle qui la déclenche, on ne sait pas, en fait.
Vous traitez ça comme une mobilisation politique.
Disons-le comme ça, mais en tout cas, elle, c'est pas forcément volontaire chez elle que d'avoir voulu embarquer tout ce monde-là. En tout cas, pour moi, c'est plus ça. Elle n'en peut plus, elle est au bout, elle vient de son enfant est mort, la vie n'a plus de sens et elle refuse, c'est une manière de refuser le monde et de partir dans son délire, quoi. Et lui, son mari, va la suivre tout au fil de long du récit, il va la suivre en ne sachant que faire, il est impuissant, il n'y a rien à faire, mais il est là, il est présent, il la suit partout comme un petit chien fidèle et il l'aide à se relever quand elle tombe, il la soigne, enfin voilà, je trouvais ce rapport assez beau entre les deux personnes.
Quand on adapte un roman, et là en l'occurrence pour entrer dans la danse, c'est celui de Jean Tellet, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de respecter scrupuleusement l'auteur, on discute avec l'auteur, ou c'est vous qui prenez ce qui vous parle le plus pour l'adapter en histoire pour la bande dessinée?
Alors Jean Tellet a une posture par rapport aux adaptations de ses romans qui est toujours la même, c'est-à-dire qu'il dit moi j'ai fait mon boulot, maintenant à toi de faire le tien si t'as envie d'adapter le roman. Donc il me laisse une liberté totale en fait, au risque de pas être satisfait du résultat, ce qui n'est pas le cas d'après ce que j'ai cru comprendre, mais en tout cas il est pas du tout dirigiste, il laisse entière liberté. Après il lit, il suit l'avancée du livre, il fait des commentaires, il fait parfois quelques corrections.
C'est Jean Tellet lui-même, il vient de la bande dessinée, il sait ce que c'est la bande dessinée.
Ouais. Absolument, oui, en plus il connaît très bien la bande dessinée, donc c'est une relation vraiment très agréable d'adapter ses romans, et puis il est très bienveillant, quoi, lui. Donc j'ai vraiment une grande liberté, je lui dis quelles sont mes intentions, mais il sait que de toute façon, pour moi ce qui est important à respecter dans l'adaptation d'un roman, c'est le ton, l'état d'esprit, et l'état d'esprit des romans de Tellet, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur, cette espèce de capacité à raconter des choses abominables avec un air un peu badin, un peu goguenard comme ça. J'aime beaucoup ce ton-là et c'est ce que j'essaye de retrouver dans la bande dessinée. Plus qu'une fidélité absolue à la lettre, c'est la fidélité à l'esprit.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Say hello. It's safe to
écoutiez de la musique, Richard Guirino, quand vous mettiez en dessin ce récit, ce roman de Jean Tellet, Entrée dans la danse?
J'écoute régulièrement de la musique, mais quant à dire ce que j'ai pu écouter à ce moment-là, j'ai du mal à m'en souvenir, à vrai dire.
Bon, c'est pas la musique de trance, hein, puisque...
Non, c'était pas de la trance, non.
Bon, en tout cas, pour revenir sur cette incroyable épidémie de danse survenue il y a 500 ans à Strasbourg, est-ce que vous vous êtes documenté? Parce que ce qu'il n'y a pas dans le roman de Jean Tellet, c'est quand même la description des personnages. Or, vous, en tant que dessinateur pour l'adaptation en bande dessinée, il fallait les représenter.
J'ai quand même cherché pas mal d'images sur l'Alsace de l'époque. Enfin, si tant est qu'on puisse en trouver énormément. Non, c'est pas tant sur les... Autant quand j'ai travaillé sur Charlie IX ou sur des personnages de rois comme ça, il y a des portraits qui existent. Donc là, on s'inspire. On est obligé un peu quand même d'aller voir à quoi ils ressemblaient à peu près. Là, non. Comme on était plutôt dans les classes populaires, on est dans les basses couches sociales. Il y a assez peu, finalement, de documents. Documentation, en tout cas d'époque, sur ces milieux-là. Donc les personnages, je les ai vraiment imaginés complètement. En revanche, le gros du travail de documentation, ça a été sur la ville de Strasbourg de l'époque. Et puis des lieux comme
sa cathédrale,
voilà, qui est un enfer pour un dessinateur. Hein. Dessiner une cathédrale sous tous les angles, c'est un boulot monstre. Mais voilà, ça a été plus là-dessus, sur les rues et puis surtout la topographie de la ville de l'époque avec ses murailles, avec quand ils partent en pèlerinage à la fin. Voilà, je voulais quand même me représenter à peu près de la manière la plus juste possible la topographie de la ville.
Est-ce que tous les dialogues de votre bande dessinée, Richard Guirino, édité chez Delcourt, Entrée dans la danse, ont été puisés dans le livre de Jean Tellet?
Alors, pas tous, la plupart. Alors, tout ce qui concerne toutes les scènes avec les politiques, on va dire, et les religieux, tout ce qui concerne les entrevues entre l'évêque, le maire, tout ça, ça, effectivement, c'est des choses que j'ai piochées dans le roman. Après, c'est un roman qui n'est pas très bavard en dialogue, en fait. Mmh. C'est un roman qui est beaucoup dans le commentaire. C'est le narrateur qui commente les faits. Donc, j'ai été obligé d'écrire des dialogues sur des scènes qui n'en avaient pas dans le roman.
Et comment on parlait donc en Alsace à Strasbourg?
Alors
en
voilà,
1518.
Je me suis dit comment représenter l'accent alsacien en bande dessinée. Non, j'ai très vite laissé tomber cette mauvaise idée. donc non, voilà, j'ai essayé de les faire parler. Alors en plus, comme c'est des gens du peuple, ils n'avaient pas un langage forcément très châtié, donc un peu de vieux français, un peu. Comme j'avais déjà travaillé sur le XVIe siècle sur mes albums précédents, j'avais quand même quelques restes et quelques réflexes pour pouvoir dialoguer ces scènes-là.
C'est quoi ces restes et réflexes?
Je pense sur le vieux français, notamment des petits mots comme ça, des termes ou des tournures qui sont, j'en ai pas précisément là qui me viennent à l'esprit, mais des petites choses. Je trouve ça très drôle, moi, le vieux français, quand on lit ça. J'ai redécouvert Rabelais, en fait, en me plongeant dans le XVIe siècle, comme ça, j'ai relu Rabelais. À l'époque, j'étais passé complètement à côté et c'est génial. Ça me fait énormément rire, moi, le vieux français, même si je comprends pas, parfois on comprend pas très bien, mais quand on comprend le terme ou l'expression, c'est une espèce de révélation géniale.
Et puis enfin, comment l'actualité s'est-elle invitée dans votre travail d'adaptateur d'un roman et d'un fait divers qui a eu lieu il y a 500 ans, Richard Guirino, pour terminer?
Oui, effectivement, oui, on peut pas s'empêcher d'y voir des résonances avec certains événements récents. Voilà, tous les mouvements sociaux qu'il y a pu avoir ces derniers mois. On est aujourd'hui dans une situation de crise, on va dire mondiale ou occidentale en tout cas.
On comprend ça très vite. Voilà. Mais est-ce que vous-même vous êtes tenté par montrer l'actualité à travers cette histoire d'époque?
Ouais, alors je dirais plus la montrer, oui, mais alors de manière allusive. Ouais. Voilà, la suggérer, oui. Pareil, j'ai glissé un petit clin d'œil à tout ce qui concerne les mouvements féministes. À un moment donné, il y a un soldat qui arrête Melchior et qui qui suit sa femme, qui va monter sur l'estrade avec les danseurs. Le soldat lui dit, ah, halte, vous n'êtes pas un danseur. Il dit, même, c'est ma femme, ma femme. Il lui dit, laissez votre femme disposer de son corps. Voilà, je trouvais le petit clin d'œil amusant.
Quand le roman de Jean Tellet est sorti, il a eu un énorme succès. Parlons de cette incroyable épidémie de danse à Strasbourg, a été très commentée, très relayée. Pourquoi Richard Guirineau ? Pourquoi ça continue à nous fasciner ?
En partie, je pense qu'il y a ces résonances avec une forme d'actualité qui, à mon avis, de manière inconsciente, joue. Maintenant, pourquoi une épidémie de danse comme ça ? Enfin, je sais pas. Il y a peut-être le côté un peu grotesque de la chose,
irrationnel.
Certainement plein de raisons, mais j'avoue que j'aurais du mal à les énumérer toutes.
Entrée dans la danse de Richard Guirineau, l'adaptation donc du roman de Jean Tellet paré chez Delcourt. Merci d'être venu de Bordeaux pour participer à cette émission. Merci beaucoup, Richard Guirineau.
Merci.